Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Qui accroît l'information augmente l'incertitude. Et comme le dit l'écrivain Alexandre Labruf que nous recevons aujourd'hui dans son premier roman sorti l'année dernière, l'incertitude, c'est la porte ouverte à l'effroi. Après le discours du Premier ministre hier soir annonçant la fermeture pure et simple du pays, chacun s'éveille ce matin avec la conscience de vivre un temps ajourné. Plus rien ne bouge, sinon les informations sur la pandémie qui circulent à la vitesse du virus lui-même, sans que l'on en sache vraiment plus sur sa nature, sur sa létalité, ni sur la façon dont il va impacter les vies suspendues qui sont désormais les nôtres pour un temps indéterminé. Virus et information, virus et viralité vont ensemble, et ce n'est peut-être pas un hasard si celui-ci de virus est né dans l'un des pays, la Chine, où justement l'information circule le moins, où les individus sont les plus contrôlés. Dans les premières semaines de l'alerte, le coronavirus a surtout révélé l'étrange dépendance économique du monde libéral pour cette superpuissance qui concurrence les USA, mais dont le président Xi Jinping continue de se réclamer de Marx, un Marx 2.0 réécrit par les technologies de surveillance et dont le modèle prétend plus que jamais concurrencer l'Occident. Aujourd'hui, alors que Pékin vient en aide à l'Italie et que par le biais du virus l'Europe se fait chinoise, que dit cette pandémie de l'avenir dans lequel nous sommes peut-être déjà ? Pour en parler aujourd'hui avec nous, Chloé Froissart, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sinologue, vous avez dirigé le centre franco-chinois de l'université de Tsinghua à Pékin. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques au département d'études chinoises de Rennes 2 et vous avez publié en 2013 « La Chine et ses migrants, la conquête d'une citoyenneté » et tout récemment, le mois dernier dans le monde, une tribune assez remarquable sur le coronavirus et ce qu'il révèle de la matrice totalitaire du régime chinois. Alice Ekman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sinologue, responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. Vous êtes l'auteur de Rouge vif, l'idéal communiste chinois qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire et qui remet en cause l'idée que le communisme aurait disparu en Chine. Et Alexandre Labruf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur de Chroniques d'une station-service publiée l'année dernière aux éditions Verticales. Vous connaissez la Chine depuis 89, vous y avez fait de nombreux voyages, vous avez dirigé l'Alliance française là-bas et depuis 5 mois, vous êtes attaché culturel dans la ville de Wuhan, d'où est partie la pandémie. Vous n'êtes pas un sinologue, il faut le dire.
Je suis un sinisant.
Un sinisant, d'accord.
Je suis un sinologue déstructuré.
Alors, je vais commencer par vous parce que vous connaissez Wuhan, en fait. Vous y avez passé quand même quelques mois. Vous dites que c'est une ville de 11 millions d'habitants. L'architecture y est étrange, futuriste. C'est aussi le lieu où sont installées la plupart des entreprises françaises en Chine, c'est ça?
Pas la plupart, une grande partie des entreprises françaises. Enfin, c'est surtout l'industrie automobile, Peugeot.
Et quelle description vous faites? Vous faites une description un peu apocalyptique de la ville.
Je suis un écrivain, j'ai tendance à exagérer, le réel, mais d'un côté, à mélanger le réel et la fiction. Et en fait, si je suis allé à Wuhan, c'était en effet pour écrire une dystopie, vivre dans une dystopie, me nourrir de cette dystopie, puisqu'après, Chronique d'une station-service, qui était une radiographie à travers le regard d'un pompiste décalé qui gère sa station de service à sa façon de manière nonchalante et en pose d'observation, en observant un monde qu'il ne comprend pas, un monde déglingué. Donc je voulais faire une radiographie de la mondialisation qui était aussi le récit d'une humanité shootée au pétrole et à la consommation et qui a mené la planète droit dans le mur, en fait. Et j'aimerais bien y revenir aussi après à ça. Donc, je l'appelais le roman d'avant l'apocalypse. D'ailleurs, si je suis bloqué en France, parce que j'ai été invité à un festival au Havre et j'avais rencontré le maire du Havre qui m'avait demandé, vous venez de parler de quoi? Et on était le 18 janvier, je dis de la fin du monde. Mm-hmm. Parce que la toile de fond de mon roman, il est parti en courant et il m'a pas serré la main. Et Sylvain Prudhomme, qui était juste à côté, m'a dit, Alexandre, 2 semaines après, t'as raison, t'es vraiment venu ici pour parler de la fin du monde. Et du coup, la toile de fond de mon roman, c'était la fin du monde. Mais c'était le temps béni d'avant la fin du monde. Et ce que je voulais faire, en fait, la suite logique de ce roman, c'était écrire le roman de l'Apocalypse. Je voulais faire une fresque cocasse, apocalyptique, un conte paranoïaque, chinois, apocalyptique. Donc Wuhan, c'était parfait. Parce qu'effectivement, outre l'architecture, il y a aussi la pollution, il y a l'urbanisation, il y a des strates d'histoire. C'est aussi une ville qui est en perpétuelle mutation.
Vous dites qu'en arrivant, vous avez pleuré pendant 15 jours à cause de la pollution.
Oui, on était en pleine période d'apocalypse, c'est-à-dire 500 microgrammes par mètre cube, en fait. C'est-à-dire 100 fois plus qu'en France. La moyenne à Wuhan, c'est entre 100 et 200, en fait. Et c'est vrai que mon corps, j'avais l'impression qu'il mutait, qu'il était en train de s'habituer à cet environnement pollué, en fait. Et je me disais que les Chinois étaient très résistants, puisque eux ne portaient pas de masque, alors que ma compagne en portait un. Pour se protéger.
C'est aussi un lieu où il y a plusieurs épidémies. Enfin, plusieurs épidémies sont parties.
La Chine a multiplié les crises sanitaires et les crises épidémiques depuis les années 2000, en fait, avec le SARS. Mais il y avait aussi des crises sanitaires qui étaient liées au lait, qui était fait de manière étrange avec de la mélamine. Il y a eu différentes crises sanitaires. Il y avait aussi des épidémies. Quand je suis arrivé, moi, j'ai entendu parler de la peste porcine. Donc, qui gravitait autour de Wuhan, et aussi la grippe aviaire qui était endémique, qui partait, qui revenait. Et dans cet univers-là, il y a aussi une impression de surveillance généralisée, de reconnaissance faciale. Alors moi, de numérisation de l'être, notation du citoyen. Non seulement notation du citoyen, mais aussi numérisation de l'être. Toute notre vie est numérisée, puisque l'argent est dématérialisé. Pour acheter quelque chose, vous l'achetez avec un code. Donc j'arrive dans cet univers, et pour moi c'était parfait pour écrire cette dystopie. J'avais commencé en octobre, à peine arrivé, à faire des chroniques, pas d'un virus annoncé, mais chroniques d'un... C'était mon compte paranoïaque, et je rencontre aussi quelqu'un qui est au laboratoire P4, qui est installé à côté de Wuhan, et qui me parle de ce laboratoire qui expérimente les virus les plus dangereux au monde. Et ça me ramène à moi à ce que j'ai vécu en 96 pour la première fois quand je suis allé en Chine, et c'était le contrôle qualité qui était complètement effectué en Chine. Bon, et tout ça pour dire que donc je commence à écrire jusqu'au jour où la réalité est plus forte que la fiction, la réalité dévore la fiction, puisque le virus surgit en fin décembre à Wuhan.
Alors, Chloé Froissart, vous avez écrit dans le Monde que depuis le début de la crise, les médias ont interdiction de se rendre à Wuhan et de communiquer avec les professionnels de santé, que deux journalistes ont entrepris de mener leurs propres enquêtes, ils ont publié sur Twitter et YouTube, que l'un de ces journalistes a été arrêté, que le second a disparu, sans doute enlevé par la sécurité de l'État.
Oui. Il y a une volonté très claire depuis le départ de contrôler l'information autour de la crise. Excusez-moi, là, j'ai un écho assez dérangeant.
Ah. On va essayer de régler ça. Oui, allez-y.
Oui.
C'est bon, là ?
Non, il y est toujours, mais je vais essayer quand même de dire quelque chose. Il y a, si vous voulez, cette idée que toute information doit venir du parti, ne peut pas venir de la base en Chine. Il faut que l'information est une donnée politique, avant tout considérée comme ça en Chine, et donc ne peut transiter que par le parti qui la valide ou non. La question de la vérité ne se pose pas de manière objective et scientifique, elle se pose de manière politique, d'emblée.
Oui, vous écrivez que ceux qui se sont extasiés devant les capacités de réaction de la Chine et l'importance des moyens déployés, il y a eu 56 millions de personnes ont été mises en quarantaine, deux hôpitaux sont sortis de terre en 10 jours, et la reconnaissance faciale a été utilisée pour traquer les personnes potentiellement contaminées dans les trains. Il y a des drones qui ont intimé l'ordre des villageois de porter un masque et de rentrer chez eux ou d'y rester. Vous dites que tout ça, c'est en fait le produit d'un volontarisme à la Mao. Donc, c'est le parti qui est aux commandes, là.
Oui, c'est ça. Bah, toute crise, c'est un peu une sorte de moment de vérité. Et tout ce qu'a essayé de faire le Parti communiste chinois, ça a été de faire oublier que cette crise, nous devons au mode de fonctionnement du système politique chinois, et que le système politique chinois était la meilleure parade et le meilleur moyen de venir à bout de cette crise. Et donc, il fallait montrer à travers ça que le parti reprenait les choses en main, était capable, à travers de méthodes qui relèvent de méthodes traditionnelles du totalitarisme, dont ça a été ravivé, mais aussi par des méthodes que vous nommiez tout à l'heure de totalitarisme 2.0, qu'il était capable de reprendre complètement la situation en main. Alors, on a assisté à la fois, si vous voulez, au fait de ressusciter des méthodes qui ont toujours existé, comme par exemple les comités de quartier ou des volontaires qui sont des membres du parti, ont tout pouvoir pour contrôler la population, prendre sa température, l'empêcher de sortir d'immeuble, distribuer des bons points ou des mauvais points, etc. Il y a l'interdiction faite aux citoyens de faire preuve d'initiative, c'est-à-dire toutes les associations ou organisations sociales qui ne sont pas directement contrôlées par l'État parti ont été sommées de ne rien faire, alors même qu'il y avait des appels à l'aide des citoyens et des hôpitaux qui manquaient cruellement de masques, d'équipements pour se protéger, etc. Et la volonté de tout centraliser l'aide via des organisations qu'on appelle des congos, c'est-à-dire des organisations qui sont directement affiliées à l'État parti, et dont le manque de professionnalisme et de probité est notoire. Enfin, il y a eu des campagnes en bas de l'administration pour faire en gros des exemples, mener des punitions exemplaires au sein de l'administration sans rien changer du mode de fonctionnement du système. Et à côté de ça, il y a ces nouvelles méthodes qui relèvent le développement qui ont été mises en œuvre, en particulier des groupes qui sont là pour intimer l'ordre aux gens de rentrer chez eux, de porter des masques, la capacité qu'a la Chine aujourd'hui grâce à ces vidéos, ces caméras qui sont partout, les lieux de vie, de transport dans les rues, de traquer ceux qui sont potentiellement contaminés, etc. Okay. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, et ce qui me semble important de retenir, c'est que la Chine a tenté de montrer que sa gestion de la crise était exemplaire et efficace, et qu'elle valait, que c'était un qui valait non seulement pour le régime chinois, mais pour le reste.
Alors on va y revenir. On va essayer de vous rappeler parce que attendez. On va essayer de vous rappeler parce que on va essayer de vous rappeler parce que la liaison est vraiment très mauvaise là. Et on va revenir sur cet aspect de la question. Dans le monde sur le terrain, ce déploiement de technologies n'empêche pas apparemment le chaos, puisque Le Monde a publié un extrait d'un texte de l'écrivaine Wuhan Fang Fang qui dit qui parle du moment où l'on emmène un proche à l'hôpital est devenu celui des adieux. Le désastre, c'est quand les cahiers des registres de décès se remplissent en quelques jours au lieu de plusieurs mois. Le désastre, c'est quand les corbillards transportent plusieurs morts à la fois dans des sacs entassés les uns sur les autres. Le désastre, ce n'est pas une personne qui meurt, mais en quelques jours, une famille entière.
Le désastre, c'est le déni du réel.
Alexandre Labruffe.
Ouais, le désastre, c'est le déni du réel. Mais moi, j'ai l'impression d'être à Wuhan depuis que je suis arrivé en France.
C'est-à-dire
La France déjà devient Wuhan. Et c'est-à-dire que là, si on compare la gestion de Taïwan par rapport à l'épidémie, la gestion française, elle est complètement différente. Elle est totalement différente. Par contre, la gestion française ressemble à la gestion chinoise du départ, avec un déni des chiffres, avec un déni de l'arrivée inéluctable du virus, en fait. Après, moi, ce qu'on oublie de dire, c'est que je l'ai dit, mais j'aimerais bien le répéter, c'est que ce virus n'est pas né hors sol, en fait. On dit que la Chine est à l'origine et le totalitarisme est à l'origine. Certes, il a amplifié peut-être les effets, en fait. Ce virus n'est pas né hors sol, c'est la mondialisation qui se mord la queue. Il est né par la mondialisation, il a été amplifié par la mondialisation, ou à cause de la mondialisation, il a été amplifié par la mondialisation, il bloque la mondialisation. Pourquoi je dis ça? Parce que je fréquente la Chine depuis 1996, ou 96, où j'ai fait un stage dans toutes les usines chinoises, où pour apprendre le chinois, on m'avait dit qu'il fallait visiter il fallait aller partir absolument en Chine, on m'avait proposé ce stage de contrôle de qualité. Et donc j'avais fait un tour de toute la Chine en 96, de 96 à aujourd'hui, quel changement j'ai vu? C'est une pollution généralisée sur toute la Chine. Contamination des sols, de l'eau, de l'air, avec une industrialisation, une urbanisation à outrance, qui a bouleversé l'écosystème du pays. Donc Chine, victime consentante de la mondialisation et qui veut effectivement rentrer dans le jeu. de la mondialisation et qui même veut le dominer. Et du coup, ça a généré, effectivement, ça a bouleversé l'écosystème, donc l'habitat des animaux, des chauves-souris, mais aussi la pollution. À noter que la pollution a favorisé et favorise la propagation de ce genre de virus. Le virus, il vient de là, en fait.
Oui. Et là, alors, le paradoxe, c'est qu'on a une mondialisation libérale qui s'appuie sur, au moins industriellement, en bonne partie, sur un pays dont la culture politique reste communiste. Alice Ekman, vous avez entendu Chloé Froissart tout à l'heure, qui a mal, en dépit de la mauvaise liaison, elle parlait de l'importance du parti dans la gestion de la crise et plus généralement dans la culture politique du pays. Dans Rouge Vif, c'est ce que vous montrez aussi. En particulier depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping.
Oui, non, Rouge Vif, je reviens à cette question. La Chine est-elle encore communiste? Une question qu'on a eu tendance à balayer d'un revers de main depuis l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping en 78. Et peut-être alors à juste titre, parce que de nombreux investisseurs anticipaient une économie qui allait se libéraliser, qui allait s'ouvrir et qui allait tourner la page du maoïsme. Et ce que l'on se rend compte lorsqu'on analyse les communications officielles en détail, mais qu'on analyse aussi de manière chiffrée la présence du parti à tous les niveaux de la société chinoise, c'est que non seulement la Chine s'est toujours revendiquée du communisme depuis la création de la République populaire de Chine en 1949, mais que cette revendication est plus vive en 2013 depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping que sous son prédécesseur. Donc on assiste aujourd'hui à un renouveau rouge, assez explicite en tout cas dans la communication officielle, qui se matérialise concrètement par un renforcement de la présence du parti à différents niveaux. Et ce n'est pas propre à la crise du coronavirus. Hein. Ce renforcement est observable depuis 7 ans. Aujourd'hui, le parti, c'est 90 millions de membres. C'est plus de 4,5 millions d'organisations de base présentes dans les hôpitaux, dans les universités, dans les bibliothèques, dans les entreprises publiques, mais aussi dans un nombre croissant d'entreprises privées, puisque Xi Jinping a appelé à la création de cellules du parti dans les entreprises privées depuis son arrivée au pouvoir. Et donc, pour moi, la crise du coronavirus ne change pas fondamentalement la donne politique, selon moi, puisqu'on assiste finalement à un constat assez évident, c'est que nous sommes face à une institution solide, le Parti communiste chinois est présent et la gestion de la crise illustre cette omniprésence, notamment on a parlé des comités de quartier, mais aussi on pourrait parler des hôpitaux temporaires de Wuhan, qui lors de leur création ont aussi mené à la création d'une cellule du parti, c'est-à-dire que même dans l'urgence, le parti est omniprésent.
Oui, c'est ça.
Le parti a continué à recruter depuis le début de la crise, notamment vis-à-vis de
au sein du personnel médical.
Du personnel médical, voilà. Donc tout ça, c'est des illustrations. Ce n'est pas lié directement à la crise du coronavirus. C'est des illustrations qui rappellent que nous sommes dans une structuration politique particulière où le parti est encore présent. Et au-delà de la structure institutionnelle, il y a aussi une dimension idéologique forte qui est renforcée depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Pour être plus précise, Xi Jinping, depuis 2013, parle ouvertement d'une présumée supériorité du système socialiste à la chinoise sur d'autres systèmes, notamment le système capitaliste. Alors cette déclaration paraît anachronique, mais il l'a martelé depuis janvier 2013, depuis son discours face aux membres du comité central. Et ce positionnement amène la Chine justement à se présenter au monde comme un modèle de référence depuis 2013. Et donc, dans différentes gestions de crise, difficultés économiques, mais aussi sanitaires, médicales, aujourd'hui, la Chine, et notamment Xi Jinping, a affirmé, aujourd'hui même d'ailleurs, qu'elle était prête à partager son expérience avec d'autres pays dans la gestion de crise. Mais ce qui est intéressant de noter, bien sûr qu'il y a une dimension sanitaire et médicale, et tout n'est pas politique, mais ce qui est intéressant de noter, c'est cette volonté de se positionner comme puissance de référence qui est antérieure à cette crise, et qui est manifesté par, pas uniquement par de la communication, mais par aussi différentes actions. Pour vous donner un exemple, depuis 2014, la Chine accélère le rythme de ses programmes de formation qui sont offerts à des fonctionnaires étrangers, notamment de pays en développement et en premier lieu de pays d'Afrique subsaharienne. Et par exemple, la Chine a proposé un séminaire qui s'intitulait partager l'expérience de développement de la Chine dans le contexte de nouvelles routes de la soie et qui inclut des cours sur le système politique chinois, sur la pensée de Xi Jinping, qui est d'ailleurs présenté comme un grand marxiste, qui a inclué aussi des visites dans les entreprises d'État, dans les comités de résidents à Shanghai, etc., etc. Si je suis si précise et si détaillée, c'est pour vous montrer que Réellement, nous sommes rentrés dans une rude compétition entre modèles de gouvernance et systèmes politiques, et chaque crise est exploitée par la propagande de la communication officielle.
On va y revenir. Oui, c'est voilà, ça. C'est-à-dire que Xi Jinping se réfère constamment à Marx. Hein. Il parle de il dit que la pensée et la théorie de Marx sont l'essence de toute l'humanité, qu'il faut rénover le marxisme via les technologies, et que le communisme reste un idéal vers lequel nous devons tendre. Donc ça, il semble que la crise sanitaire ait renforcé cette tendance, ou soit en train de le renforcer, comme si le virus et la narration allaient de pair, quoi.
Non, elle le renforce pas vraiment. Elle souligne cette tendance, en fait. Hein. Oui. Elle était déjà préexistante auparavant, mais disons que là, elle rend publique une tendance, en effet, forte, manifeste, et qui, à mon avis, va se prolonger dans les prochains mois et les prochaines années, parce que c'est une orientation politique.
Chloé Froissart.
Oui, je voudrais quand même souligner qu'il y a un écart extrêmement important et complètement paradoxal entre ce discours sur le marxisme communiste vers lequel tend la Chine et la manière dont elle gère ces crises qui, au contraire, est fondée sur des valeurs qui sont exactement celles inverses, celles qui sont ouvertement proclamées, c'est-à-dire que la Chine utilise quand même des méthodes de contrôle, de surveillance, d'atomisation de la société, d'élitisme extrême, au point que certains peuvent être sacrifiés dans cette crise, en particulier les travailleurs migrants, sur lesquels on pourrait peut-être revenir. Mais si vous voulez, c'est l'inverse d'une gestion solidaire égalitaire de la crise. Et ça, c'est...
Alors, on l'a vu aussi dans la gestion de la crise, d'ailleurs, parce que certains des gens contaminés ou dits contaminés se sont retrouvés enfermés chez eux par les autorités de manière très,
absolument,
très violente.
Absolument. C'est-à-dire que, si vous voulez, la crise agit comme une sorte de révélateur de structures et de valeurs qui étaient certes déjà là, comme l'a rappelé Alice Ekman, mais qui les rendent plus visibles. Mmh. Et donc, du coup, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que la gestion de la crise révèle le mode de fonctionnement du régime chinois dans tout son totalitarisme.
C'est ça
qui est important. C'était déjà là, mais là, on l'a vraiment en zoom. Mm-hmm. Et si vous voulez, on voit bien quand on écoute, quand on confronte les discours chinois ou ceux que, par exemple, ceux qu'a délivré le président Macron il y a deux jours, qu'on n'est pas du tout dans les mêmes types de fonctionnement et les mêmes valeurs. Mmh. Et d'ailleurs, la Corée du Sud l'a également fait valoir que une démocratie, on pouvait pas appliquer les méthodes chinoises et qu'au contraire, il fallait faire le choix de la responsabilisation des citoyens, de leur participation, etc. Alors que en Chine, on est dans un maintien de la population dans un état d'infantilisme total.
On va y revenir dans une seconde. God sent a mighty disease. It killed many thousand on land and on the seas. When I'm tired, God's done warning. Jesus coming soon. When I'm tired, God's done warning. Jesus coming soon. Spread disease to everybody, and the people are sick everywhere. Epidemic, and it floated through the air. When I'm tired, God's done warning. Jesus coming soon. When I'm tired, God's done warning. Jesus coming soon. The doctors, they got troubles, and they didn't know what to do. They gathered themselves together, and they called it the Spanish flu. When I'm tired, I've got done warning. Jesus coming soon. When I'm tired, I've got done warning. Jesus coming soon. Soldiers die.
France Culture, Signe des Temps, Marc Wetzmann.
Alors, la crise du coronavirus et la Chine. La crise du coronavirus se révèle une période de test de certains outils technologiques et de certaines méthodes politiques en Chine qui pourraient perdurer et être étendues à d'autres usages après la crise, comme par exemple certains aspects du système de ce qu'on appelle le crédit social. Alexandre Labrouf, je vous ai vu prendre des notes pendant que...
Oui, parce qu'en fait, je voulais souligner un autre paradoxe. La Chine, je pense que c'est l'utopie réalisée du libéralisme.
Oui, c'est ce que vous... Ouais. C'est votre thèse, oui.
C'est ma thèse. Alors, le système hybride avec ce grand écart entre l'idéologie, en effet, dont vous parliez, et l'économie, qui est libérale, en fait, basée sur le libéralisme. En fait, la seule liberté en Chine, c'est celle de consommer. Mm-hmm. Et là, effectivement, le virus a rompu le pacte, entre guillemets, social entre le parti et le gouvernement et sa population. Mm-hmm. Dans quelle mesure ça va impacter effectivement ce pacte social, c'est une question. L'autre question aussi, c'est en effet le virus a ébranlé l'image de la Chine. Donc effectivement, par tous les moyens, et la pandémie mondiale va aider à cela, le virus cherche à être dessinisé. Et plus le temps va passer, plus l'Europe sera touchée, plus le virus sera dessinisé, en fait.
Mm-hmm. Oui. Vous êtes d'accord, Alice Ackman et Chloé Froissart, sur l'idée que la consommation est la seule liberté en Chine?
Oui, absolument. C'était un peu le pacte. Mm-hmm. Le pacte passé par le Parti communiste avec sa population, à savoir, vous jouissez d'une certaine liberté dans le domaine privé, et celle en particulier de vous enrichir, de vivre selon vos principes au niveau privé, et de consommer. Et puis, pour le reste, nous, on vous fournit une croissance en hausse et une certaine forme de sécurité, de stabilité, en tout cas pour les citoyens qui souscrivent à ce pacte, mm-hmm. c'est-à-dire sauf les dissidents. Mm-hmm. Et là, c'est ce pacte qui est en train d'être rompu, oui. très clairement, oui. et qu'on fait savoir, qu'on rappelait les quelques citoyens qui ont pris la parole, notamment au moment de la mort du docteur Li Wanliang, qui était un des premiers lanceurs d'alerte, oui. et qui, en gros, disait... il y a quand même un certain nombre de libertés qui sont inscrites dans la constitution chinoise, dont la liberté d'expression, qui doivent être respectées si le parti entend véritablement gérer en toute justice ce pays, le gouverner. Et voilà. Donc alors, ça, c'est très important. Et on est là, cette crise-là, c'est quand même la première occasion qu'ont eu les citoyens chinois depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir de formuler une forme de désaccord avec le durcissement totalitaire du régime.
Alors, c'est une des questions. Certains ont comparé le coronavirus à un Tchernobyl chinois. Est-ce que le parallèle tient debout ou pas?
Ben non, c'est l'inverse du Tchernobyl chinois. Tchernobyl, c'est ce qui a permis à Gorbatchev de pousser sa politique de glasnost, de transparence, et ce qui a permis à Gorbatchev de faire passer la démocratisation du régime de l'URSS. Xi Jinping, c'est l'inverse. Il a eu l'occasion de le dire à maintes reprises, que ce soit devant le public chinois ou international, que la trajectoire de l'URSS était l'inverse de ce qu'il recherchait. Et que pour lui, ça a été le début de la fin. Donc, pour ce Xi Jinping, au contraire, l'enjeu, c'est de montrer que c'est à travers ce type de crise que la validité du système totalitaire qu'il défend est démontrée.
Oui.
Donc c'est exactement l'inverse. Et ce qu'il faut rappeler aussi, ce qu'on oublie souvent, c'est que la démocratisation d'un régime, elle s'est faite, en tout cas en URSS, sur la décision du gouvernement central, de Gorbatchev. Et là, la décision de Xi Jinping, c'est au contraire une décision inverse, de renforcer. Donc malheureusement, moi je suis assez pessimiste quant à la possibilité de cette crise de promouvoir une véritable démocratisation.
Et vous êtes tous d'accord là sur ce point? Qu'est-ce qui va intervenir?
Moi je voulais revenir sur la définition de l'économie libérale.
Oui.
Pour moi, il est difficile aujourd'hui de qualifier la Chine d'économie libérale, et d'ailleurs pour l'Union européenne aussi, qui n'a pas à accorder le statut d'économie de marché à la Chine, parce que le marché reste difficile d'accès pour les acteurs étrangers, et cet accès est devenu encore plus difficile au cours des dernières années, sur fond de tensions sino-américaines, mais bien avant également. Et puis on reste aussi dans une économie planifiée, certes ce ne sont plus les plans quinquennaux aussi strictement appliqués que sous Mao, mais ces plans quinquennaux existent toujours et sont structurants pour l'économie. Xi Jinping a appelé au début de son mandat à la fin de la consommation ostentatoire, notamment pour l'ensemble des fonctionnaires et des cadres. Donc il y a aussi une approche de la consommation
plus critique qu'à un moment donné. Ouais.
Oui, ça suffit de cette période, voilà. De cette période, voilà, de société de vaste société de consommation, il faut maintenant revenir à des valeurs plus mesurées, plus en accord avec notre socialisme. Ça, c'est la position de Xi Jinping aujourd'hui. Les organes de planification de l'économie demeurent centraux, tels que la NDRC, qui planifie notamment des projets comme une nouvelle route de la soie, qui sont aussi des priorités édictées par le gouvernement. Et puis tout à l'heure, on en a parlé, mais c'est quand même un fait important. Ce sont ces cellules du parti qui existent dans les entreprises publiques, et puis les entreprises publics demeurent des acteurs majeurs de l'économie chinoise aujourd'hui, mais qui sont aussi de plus en plus nombreuses dans les entreprises privées. Et puis les acteurs privés, même si une économie privée existe depuis 2001, grâce à Jiang Zemin, les entrepreneurs peuvent rejoindre le parti et devenir membres. Ces entreprises doivent garder de bonnes relations avec l'État et avant tout avec le parti pour pouvoir développer leurs activités sur le territoire chinois, d'ailleurs comme les entreprises étrangères. Et un point intéressant aussi à noter, c'est que Xi Jinping progressivement revoit les critères de recrutement au sein du Parti communiste en se disant finalement que le parti ne devrait plus être le parti des winners, si je peux me permettre, des personnes qui finalement ont réussi à attirer les avantages de développement économique chinois, mais qu'il faut recruter davantage dans, je cite, les catégories traditionnelles de notre système politique. Et il incite d'ailleurs les migrants et les paysans, et notamment les ouvriers migrants qui travaillent en usine, à se porter candidat au sein du parti. Donc on voit aussi que la communication rouge n'est pas que rhétorique, hein, qu'il y a aussi des faits qui sont structurants et qu'il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui, parce que c'est la Chine d'aujourd'hui qui fonctionne comme ça, qu'on le veuille ou non. Et donc on peut vouloir voir une économie libérale, mais dans les faits, elle ne l'est pas.
Alors le paradoxe, c'est que on comparait tout à l'heure la crise sanitaire à Tchernobyl. C'est la raison, c'est que Tchernobyl a été le début a boosté en tout cas le désir de réforme de Gorbatchev et a boosté la glasnost et la perestroïka. Là, il semblerait que le pouvoir chinois prenne appui paradoxalement sur cette crise sanitaire pour au contraire non seulement renforcer le système et le système de surveillance, mais aussi pour l'exporter et en faire un modèle. La Chine ambitionne de promouvoir son modèle de gouvernance comme alternative au libéralisme mondialisé.
Oui, tout à fait, depuis 2013. Le parti aujourd'hui essaye de tirer parti de cette crise sanitaire pour communiquer sur la présumée supériorité de son système de gouvernance, mais aussi sur ses capacités technologiques, parce que là, il y a aussi une question de business derrière. Aujourd'hui, la Chine, c'est vrai, a des champions technologiques. On a parlé des drones, l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, l'utilisation des données.
Essentiellement les moyens de surveillance, en fait.
Oui, pas uniquement, parce que la Chine maintenant a des capacités technologiques qui vont bien au-delà des usages, qui vont bien au-delà de la surveillance, mais vous avez raison, en premier lieu, les capacités de surveillance, mais la Chine n'a pas attendu la crise sanitaire pour communiquer sur ses capacités, puisque depuis 3 ans, elle communique et elle essaie d'exporter ce qu'elle appelle les smart cities, c'est-à-dire les villes de demain qui font utilisation massive de ces technologies et qu'elle essaye d'exporter. Alors l'Europe n'est pas la cible privilégiée, de toute façon il y a des contraintes légales qui empêcherait les outils d'être utilisés pleinement tels qu'ils sont utilisés en Chine. Par exemple, la reconnaissance faciale est interdite sur le sol français dans une large mesure. Mais par contre, elle essaye d'exporter ce type de structure dans des pays tiers, par exemple en Éthiopie, par exemple en Arabie Saoudite, par exemple dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Et puis il y a tout ce débat autour de la 5G aussi, et des nouvelles technologies chinoises dans un renforcement des tensions, on pourrait même dire de la guerre guerre technologique sino-américaine, parce que on pense à Huawei, mais la liste noire ou l'entity list de l'administration Trump, qui considère un grand nombre donc, d'acteurs technologiques chinois comme posant des problèmes de sécurité, cette liste contient Huawei, mais elle contient aussi Dahua et Yixvision, qui sont des entreprises de vidéosurveillance, elle contient aussi McVie, qui sont des entreprises de reconnaissance spatiale. Enfin, on voit vraiment aujourd'hui là qu'il y a une compétition technologique forte. C'est une compétition commerciale, technologique, mais aussi politique et de plus en plus idéologique. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui est intéressant de constater, en tout cas de mon point de vue, cette compétition reste ouverte. C'est-à-dire on a tendance à souvent dépeindre une Chine qui serait isolée, une Chine qui ne fait pas du tout rêver, qui n'est pas séduisante. Certes, c'est la perception que l'on a majoritairement en Europe, compte tenu des couvertures, compte tenu de l'analyse qui se développe et de la connaissance du développement, des développements technologiques et politiques chinois, et puis de notre culture aussi démocratique, qui nous fait voir, par exemple, le système de crise sociale avec anxiété et inquiétude.
Attendez, je vais donner la parole à Alexandre Lapouche pour qu'il commente un peu, parce qu'il est en train d'écrire un roman entier sur la...
J'écris un roman... et c'est vrai qu'il faut aussi souligner dans la gestion de cette crise en fait sanitaire une réactivité assez extraordinaire du pouvoir chinois où la diplomatie médicale devient l'un des chevals de Troie de l'exportation de son modèle hybride basé sur surveillance et consommation. Après c'était une figure de style, l'utopie réalisée du libéralisme, c'est une figure d'écrivain de style, et aussi peut-être, effectivement, en termes de gestion de crise aussi, Wuhan va devenir un modèle, ou peut-être est en train de devenir un modèle, puisqu'après 50 jours de confinement, Wuhan n'a plus que 4 cas de 4 contaminés, alors qu'on était à 1500.
Mais à quel prix? Parce
que c'est à quel prix, bien sûr. Bientôt, ça va être la référence en termes de gestion de crise, vu ce qui va se passer en France, en fait, et en Europe, et vu ce qui est en train où le virus est incontrôlable, où on fait des paris, comme en Angleterre, sur l'immunité.
Le quotidien du peuple,
de la population.
Un éditorial du quotidien du peuple, le journal chinois, écrit: la bataille chinoise contre l'épidémie montre que le Parti communiste chinois est de loin le parti politique avec la plus forte capacité de gouvernement dans l'histoire de l'humanité. C'est ça l'enjeu, apparemment, en termes de démonstration.
L'enjeu, c'est l'humanité.
Oui, c'est l'humanité.
C'est ça.
Oui, tout à fait.
Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est de voir la résurgence de la dimension internationaliste de la diplomatie chinoise.
Voilà, c'est ce que j'ai...
se positionne pas uniquement pour le bien de la communauté nationale, mais de la communauté internationale, avec un discours de plus en plus internationaliste qui est en partie cadré par la rhétorique maoïste. Et ça, c'est très intéressant à prendre en compte, notamment dans l'analyse de l'aide chinoise aujourd'hui accordée aussi, par exemple, à l'Italie ou à d'autres pays, avec une communication très large autour de ces aides, avec une volonté de la Chine de se positionner comme puissance responsable qui fait le bien de l'humanité. Et c'est intéressant aussi de noter qu'on est dans une dynamique de riposte systématique vis-à-vis des États-Unis au niveau de la communication, avec une Chine qui glorifie son positionnement et le bien qu'elle ferait à l'humanité, et à l'inverse, qui n'hésite pas à souligner les failles résumé d'autres systèmes de gouvernance, d'autres pays qui feraient face à la crise aujourd'hui. Et lorsqu'on regarde le journal télévisé chinois de 19h, on observe finalement le motif récurrent suivant, c'est-à-dire dans les 10 premières minutes, le programme glorifie l'action de Xi Jinping, qui gère la crise de manière magnifique et qui est sur tous les fronts. Dans les 10 minutes suivantes, le programme souligne la joie présumé du peuple chinois grâce à l'action du leader présenté comme un grand marxiste qui contribue au renouveau de la nation chinoise dans le monde. Et dans la troisième partie, des dernières minutes, le programme souligne le chaos auquel ferait face le reste du monde et toutes les difficultés qui se présentent.
Vous écrivez qu'on va vers l'émergence de pôles géopolitiques, en fait, commerciaux, mais aussi politiques et idéologiques. Une polarisation de plusieurs modes de gouvernance différents sur les qui vont se concurrencer, en fait, plus ou moins démocratiques selon les...
Oui, si je peux dire quelque chose, Il y a, si vous voulez, là-dedans, la concurrence de deux modes de gouvernance complètement antagonistes pour le Parti communiste, justement. La participation des citoyens, la transparence, la consultation large, ça relève d'une gestion impropre de la crise et qui serait à même qu'à produire du chaos.
Oui, oui.
Et là, si vous voulez, pour revenir sur ce qui a été dit, de fait, la Chine, de toute évidence, essaye de transformer une catastrophe en ressource et comme en quelque chose de positif.
Oui.
Et à la fois pour en se présentant dans une position complètement millénariste comme le sauveteur non seulement de la Chine mais du monde, mais aussi en faisant en sorte que ça soit un atout dans la guerre commerciale avec les États-Unis et pour vendre les technologies produites en Chine, etc.
Oui.
Donc, mais la question c'est est-ce que ça marche
et oui, c'est ce qu'on va voir. Alexandre Labruf, pour...
Oui, plus globalement, en fait, j'ai l'impression que la Chine veut accomplir son vieux rêve inachevé qui date du 15e siècle, en fait, où elle était partie avec l'eunuque explorateur Zheng He, qui a été nommé amiral à la conquête du monde, en fait. Mais cette conquête n'a pas eu lieu. Et du coup, là, elle est en train de, réaliser ce rêve, j'ai l'impression.
Je voudrais finir sur cette phrase d'Elena Bonner qui avait donné quelques mois avant sa mort. Elena Bonner était la veuve de Andrei Sakharov, le dissident soviétique. Elle avait donné à Galia Kerman dans la revue Le Meilleur des Mondes une interview dans laquelle elle disait « Le 21e siècle sera la synthèse entre le pire du capitalisme et le pire du communisme ». Est-ce que c'est pas quelque chose comme ça qui se dessine à l'horizon ?
C'est le modèle incarné par la Chine, en tout cas,
c'est le...
où on a à la fois, comme le disait très bien Alexandre, la brûle, c'est de, à la fois le pire du capitalisme, où c'est chacun, où juste les valeurs, c'est celle de la consommation, celle de l'atomisation du corps social, l'aliénation au marché, etc., les inégalités sociales qui explosent en Chine. Le coefficient chini serait autour de 0,5, c'est-à-dire un des plus hauts au monde. Le manque de solidarité, etc. Et le pire du communisme en tant que léninisme, c'est-à-dire d'appareil de contrôle de la population, d'organisation par le Parti communiste, etc.
D'accord. Merci beaucoup. Shakes the grave foundations, I awake from my sleep. I trust my life to providence, I trust my soul to grace. But nothing takes away this pain, I can't forget your face. Now it feels like the world's on fire. Yes, it feels. Fascinating shell of blood and bone. I struggle through the day to day. I brace against the storm. Thoughts of you pursue me like an overwhelming tide. There's something in the air tonight that would do no good to hide. C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Céline Leclerc, avec à la technique Valentin Bobinet et à la réalisation Véronique Villa.